I thought that I'd wait patiently for you. She thought that I've got nothing better to do. She thought she would write all my dreams. Ding-dong ! Mesdames et messieurs, c'est le commandant de régie qui vous parle. Auditeur de Radio FMR Service Mondial, merci de nous écouter sur le flux Ogvorbis. Notre programme va être relayé à 89,1 mégacycles en modulation de fréquence sur la région de Toulouse à Midi-Pile, temps commun européen. Les sorties de l'appareil sont marquées sur votre écran en haut à droite par une croix ou un bouton rouge. La température au sol est de 5 degrés. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie. Dans l'attente de nos émissions normales, l'hymne officiel vous est intéressé par Fred Rabold, on dit Bavaro Orchestra. C'est Radio FMR, une radio de spécialistes, une radio qui sait parler. Quand elle parle de BD, c'est marrant, c'est beaucoup moins chiant. Non ? Bienvenue, nous sommes le samedi 11 février. Il fait beau, il fait pas encore vraiment chaud, hein. On est en hiver.
Il fait soleil.
Vous écoutez la radio comme tous les samedis. Radio FMR ouvre avec les magazines, suppléments week-end, BD, cinéma, DVD, TV avec un très gros On continue sur le débrief d'Angoulême, puis le cahier du sport et à partir de 15h. Du mix avec, du sport d'ailleurs, c'est du Jeux Olympiques, on va essayer de ne pas déborder. À 15h, mode progression, 16h, Big Bang, 17h, vie d'ordure, 18h, tu peux l'ouvrir. Le numéro de la station, c'est le 05 61 580 580, et c'est une libre antenne. 19h, Happier, 20h, Last Hétéro Experience, et 21h30 avec Liquid Sky, avec SKS et PO, et SKS, PO et tout ça. Et ben, hey, ce soir, ils font une soirée Stéréo Panda, Fat Bass Partiste au Liquid Club à Toulouse. On en reparle juste après le jingle.
Éphémère, vous n'avez jamais écouté de radio.
Réalise encore. Rentre sur sa propre production, mec.
Exclu. Le CD tout chaud, c'est une avant-première.
If you don't have my money for me, I'll crack your fucking head wide open in front of everybody in the bank. It's just about the time that I'm coming out of jail. Hopefully, you'll be coming out of your coma. And guess what? I'll split your fucking head open again. Because I'm fucking stupid. I don't give a fuck.
Écoute ça.
prends l'énergie de la passe et du beat. C'est l'essentiel, mec, écoute bien. Spécial sound system de musique avancée.
If you don't have my money for me, I'll crack your fucking head wide open in front of everybody in the bank. I'm just about the time that I'm coming out of jail.
Red Eye, et là c'est enchaîné avec The Funk Static. Il s'agit d'un CD qui va sortir dans les bacs en avril.
Ouais, ouais.
Non, je l'ai, c'est dédicacé et tout, c'est le dernier. C'est donc le Central Massive, que la drum and bass française, mixé par Red Eye et avec MC Usman au mic, que l'on connaît bien quand même sur Radio FMR. Et putain.
Allez, où la dédicace là, espèce de mytho.
Et c'est vraiment pour une fois qu'il y a une compil de drum and bass en France qui a vraiment de la très 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 bonne sélection, puisqu'il s'agit des artistes du Central Massive. Ils tuent, donc voilà, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Non, tu me rends le
boîtier. Ouais. Allez, tiens.
Voilà.
Le CD dedans.
Voilà. Et donc, juste pour vous dire que ce soir, il y a une soirée Stéréo Panda Full Bass Party. Je rappelle donc qu'à partir de 21h30, il y a l'émission Liquid Sky. Non, je dis une bêtise. C'est Liquid Sky qui est en entier ce soir, donc ils sont débrouillés différemment. Enfin bon, tout ça pour vous dire qu'il y aura Kush, il y aura Hug a Bass de Stéréo Panda. Oups, je dis une bêtise. Red Eye et SKS et MC Usman à la fois au platine et au mic. Et donc c'est au Liquid Club, c'est ce soir à partir de 22h-23h jusqu'à 5h du matin. L'entrée elle est de je ne sais plus combien, 7€ avec une conso. Et sans premier, et ben vous repartez avec un CD.
Et avec des badges Stéréo Panda également.
Voilà. Donc je pense que ça va être l'occasion. Et puis voilà. Oui. Ce soir j'y vais.
Moi je te promets rien.
Tu sais où c'est à peu près
Non.
Non, bon, alors c'est très simple. Tu prends la rue la rue de Matabio, tu traverses le canal, donc après tu prends l'avenue du Faubourg. Tu vas tout au bout, puis ça devient la rue la rue d'Atlanta. C'est juste avant le périphérique, donc pas
de. Oui, mais je te promets rien parce que moi j'ai un taxi là et je pense pas qu'elle va être en forme ce soir, donc
Bon
mais tu fais péter le CD.
Non, j'ai promis que non, tu m'énerves.
Mais c'est quoi ça? C'est pas le bon. Donne-moi le bon.
J'avais presque été arrivé, voilà. On continue avec
La revue de presse, peut-être.
La revue de presse, ouais, exactement. Puisque donc, on avait énormément
merci.
De. Non. Avec le Animeland numéro 118 qui est arrivé en kiosque il y a déjà 2 semaines. C'est donc, figurez-vous, bah, la revue de référence sur l'animation japonaise qui s'est recentrée sur l'animation japonaise. On apprécie pas. Moi, personnellement, je m'attendais à pire, hein, à vrai dire. On craignait vraiment que cela tombe, je dirais, dans du plus que moyen, du gnangnan et tout ça.
Dans la gogo latitude, ouais, c'est génial les mangas, pourquoi ça passe pas là, autant à la télé.
Voilà, exactement. Et figurez-vous que c'est Olivier Fallet qui était dans Animeland depuis l'époque Prozine, hein, c'est-à-dire à l'époque où c'était encore distribué dans certains libraires, chez certains libraires, et encore, des fois, il fallait commander. Il y avait même un certain Kevin Eno qui dessinait dedans un Otaku Circus. Le 34 qu'il a dessiné HK par la suite.
Ah oui.
Ah oui, à tout d'un coup là. Et Otaku Circus, c'était vraiment ça. C'était les mecs qui disaient oh, il faut que je les achète en VO, il faut que je les achète en VO. Ils comprenaient rien. Enfin bon, c'était assez pitoyable. Donc, Olivier Fallet remplace Ivan West Lawrence comme rédac chef. On lui souhaite une bien meilleure chance que le titre spécialisé manga qu'ils avaient tenté de lancer l'an dernier. Et en tout cas, eh ben, on souhaite que malgré un recentrage plus nippon d'Animeland, qui a donc perdu la richesse internationale quand même de ce titre, on ne tombera pas dans un jeunisme, gna gna, mais qu'on restera dans des sujets passionnés et bien documentés.
Ah bah c'est bien parti vu la couverture.
Oui, tu m'étonnes, un spécial Naruto.
Bon, ouais.
Ceci dit, cela faisait longtemps que la télé française n'avait pas accordé tant de place au dessin animé japonais. Sinon, depuis la chute de l'impératrice Dorothée et l'explosion de la 5, heureusement avec le lancement de la TNT, là on a le choix, hein. Europe 2 télé, France 4, et bizarrement NT1, ils s'y sont pas trop, si pardon, ils s'y sont mis, je dis une bêtise. Enfin bon, l'interview de quelques directeurs de prog de chaîne, ça tombe bien, dont celui de Game One qui a été viré la semaine dernière, ça tombe mal pour lui. On y note des dossiers alléchants sur Paranoia Agent, Hayashi no Yoru ni qui semble être un très beau dessin animé pour enfants. Angel Heart, d'après Tsukasa Ojo, c'est le dessinateur de Cat's Eye, c'est City Hunter, c'est considéré comme une suite effectivement de Nicky Larson City Hunter. Paradise Kiss et des interviews de dessinateurs sud-coréens comme Yo Seop Moon et un dessinateur japonais, Roshi Rigdo. On ne parle pas encore des deux rachats du siècle, DreamWorks par Paramount et Pixar par Disney. C'est peut-être un peu trop récent, mais en tout cas, on verra par la suite.
Si, moi j'ai un truc à dire, parce que ce qui est intéressant, c'est toujours dans les previews, c'est une rubrique à la fin d'Animeland à chaque fois qui permet d'en savoir un peu plus sur les projets en cours en France, aux États-Unis et au Japon. Et là, j'ai vu un news, je t'ai lu en antenne tout à l'heure, ça t'a fait bondir, il s'agit d'une adaptation en film d'animation de la série de Taiyo Matsumoto, Amer Béton,
ah oui,
qui sera faite par le studio 4C.
Alors, Amer Béton, c'est un manga qui était sorti en trilogie chez Tonkam, absolument inaperçu. Il s'est très mal vendu. C'est bien dommage parce que c'est vraiment c'est une manga qui ne ressemble pas à une manga, on dirait plutôt du David B dans le dessin, et ça parle d'une jeunesse désœuvrée dans un Japon qui ressemble un peu, je dirais, à nos banlieues françaises. C'est plutôt étonnant.
Et ce serait l'américain Michael Arias, coordinateur et producteur des sketchs d'animatrice, qui le réaliserait. Et j'ai aussi une autre news, ça concerne toujours le Japon, et il s'agit du prochain long métrage de Ghibli.
Oui.
Voilà, et il serait réalisé par Gorō Miyazaki, le fils de, qui s'appellerait donc Getsenki.
Ayao.
Voilà, c'est le titre japonais, et qui serait adapté de l'œuvre d'Eric Fantasy, Terre-Mère. Voilà.
Donc on attend de voir, peut-être la relève des studios Ghibli est faite. En tout cas, il y a 3 films qui viennent de sortir, 3 moyens-métrages signés Hayao Miyazaki. Il a une retraite très active, hein, quand même. Passé 65 ans, alors qu'il avait dit qu'il arrêtait, ben non, finalement.
Bon, il avait dit qu'il arrêtait après Mononoke. Hein.
Il a eu un dessinateur qui a fait Fougon, un réalisateur qui a fait Fougon, donc il a dû continuer. Voilà. C'est comme ça. On continue avec Preview Glénat. Il s'agit en fait d'un bouquin, puisqu'il y a une couverture cartonnée. Non, elle est là, je le vois, sous le Catwoman. Il s'agit d'un semestriel qui présente l'ensemble des sorties bande dessinée du groupe Glénat, de janvier à juillet. Ça coûte 1,50€, c'est en kiosque, enfin dans certains kiosques et en librairie. et c'est l'occasion d'avoir dans un gros bouquin pour pas cher et ben les bonnes feuilles, trois planches en moyenne par album, mais aussi l'affiche libraire qui sert de dossier de presse, c'est-à-dire quand les journalistes reçoivent les bouquins chez Glénat, dedans il y a une fiche librairie qui dit voilà ça coûte combien, voici le code, code barre, etc. Un petit brief sur les dessinateurs, sur le scénariste, le résumé. Donc c'est exactement ce qu'il faut à l'amateur éclairé de bande dessinée un peu pour savoir ce qui va arriver, du moins pour les sorties chez Glénat, mais aussi au lecteur occasionnel pour découvrir un prix qui est largement correct, attends, 1,50€, des séries qui pourraient peut-être lui plaire, on ne sait jamais. Le classement par date de sortie trahit une intention professionnelle, mais amène d'autant mieux à la découverte. Pour ce prix-là, on peut craquer, c'est plus amusant à lire qu'un catalogue des Trois Redoutes. Alors voilà, Thomas, lui, me sort des vacheries derrière, en antenne et tout, tout ce que tu
Tandis
veux.
Tandis que Dusport prépare ses gants, son écharpe et son bonnet pour parler de ski.
Eh oui, en direct de Torino. Sur le débrief d'Angoulême, on vous a parlé un peu rapidement des espaces professionnels, donc qui sont plutôt réservés, je dirais, à un public averti, c'est-à-dire ceux qui ont un badge professionnel. Nous, en tant que journalistes, évidemment, on y a droit, mais sont plutôt les éditeurs, les auteurs, les marchands de droits qui y vont. Il s'agit justement du marché international des droits. C'est là où on peut négocier des séries, où on peut négocier des droits sur des goodies, c'est-à-dire si vous voulez faire des t-shirts Tintin, non, aucune chance. Mais je veux dire, si vous voulez négocier le droit d'avoir exclusivité sur les chocolats en forme de Pouka pour la Saint-Valentin, vous allez au stand de Corée du Sud, peut-être qu'ils pourront vous indiquer qui c'est, etc. Et en général, donc, on se donne rendez-vous. Il y avait aussi l'espace presse qui, cette année, était dans la salle de mariage du Beffroi de la mairie d'Angoulême. Et là, faut dire...
Les grands salons de l'hôtel de ville, ça le fait.
Ça le fait, c'est classieux, il n'y a pas d'autre terme. Il y a l'espace jeune talent où on peut rencontrer des dessinateurs vétérans qui viennent voir un peu ce qui se passe, s'il y a un petit jeune qui pourrait peut-être prendre sous leur aile, s'il y a des éditeurs qui sont intéressés. Et c'est un espace qui était ouvert au public d'ailleurs. Et où en fait, on avait des choses qui se passaient, qu'on a vu qui sont quand même pas mal du tout. Certains d'ailleurs sont en stade prosine, donc ils sont proches de la publication en album. Et il y a le fameux club. Alors le club, comment dire, c'est le soir. C'est un endroit où théoriquement, il n'y a pas besoin du badge pour rentrer, mais où en fait on rencontre les grandes stars de la bande dessinée, ceux qui font la bande dessinée dans l'ombre aussi, c'est-à-dire les éditeurs, les journalistes internationaux, quelques fanzinistes et d'autres.
Pour être clair, en fait, le soir, il y a toute la faune qui a passé leur journée en dédicace qui se réunissent tous à un endroit.
Voilà, c'est plutôt étroit, les consos sont hors de prix. Et on avait dit qu'on ne parlait pas du Fight Club. Donc, passons à autre chose. Figurez-vous que, Thomas, je t'ai fait entrer en douce dans une réunion qui fait trembler tous les éditeurs de la sphère bande dessinée. Il s'agit de l'ACBD, l'Association des critiques de bande dessinée, qui chaque année remet le prix de la critique. Cette année, il est allé à Étienne Davoudou, on en a parlé la semaine dernière.
D'ailleurs, la BD est revenue.
Et du sport, d'ailleurs, a peut-être quelque chose à dire là-dessus. Non, je sais pas.
Sur quoi? Sur les critiques de BD?
Sur les mauvaises gens.
Sur les mauvaises gens.
Ah, sur les mauvaises gens. Ah bah écoute, je te dirais que si c'était un truc que j'avais vu à la télé, ce serait un excellent, excellent documentaire, voilà. Docu-fiction, on va dire, hein. C'est pas mal. Mais enfin, en tout cas, c'est très intéressant. Bon, comme j'aime bien les dessins qui sont des fois un petit peu fouillés, un petit peu, tu vois,
travaillé, ouais.
Et tout ça. Bon, bah c'est clair que c'est pas à ce niveau-là que qu'il l'emporte, hein. Mais c'est surtout le discours. Et la manière dont c'est agencé, c'est plus un bouquin illustré en fait, hein, qu'une BD, quoi. Mais bon, l'histoire est vraiment excellente de toute façon, histoire militante en plus, hein. Et puis bon, c'est une part d'histoire, hein, de toute façon, que pas beaucoup de gens connaissent en plus, hein, l'histoire des jokes et tout ça, hein, les jeunesses ouvrières chrétiennes. Donc ça vaut vraiment le coup, hein, pour ça. Puis bon, c'est ouais, on va dire que ça fait ça englobe 40 ans de l'histoire de France dans un pas uniquement sur dans un certain endroit, citer Limoges, hein, mais l'histoire de France en général, avec en plus des petites références sur l'actualité mondiale, sur différents gros événements qui sont arrivés.
Deuxième de bien... semaine de congé payé.
Troisième. Et en 56, je crois, 57. ouais, ça fait sourire, mais enfin bon. Donc ça vaut le coup, hein, de toute façon, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. C'est vraiment très très bien, quoi. Et bon, ça permet justement aux gens qui déprécient un petit peu la BD et qui trouvent perdre leur temps en lisant une BD parce que bon, il n'y a pas assez de texte. là, par contre, ils sont pas déçus. C'est vraiment très très bien à ce niveau-là. Hein. Ouais, pas mal, quoi. Vraiment pas mal.
Et à la CBD, donc, ce bouquin a remporté le prix de la critique. Ils ont eu aussi le prix du public et le prix du meilleur scénario, même si je vois pas trop l'intérêt. Mais on a surtout parlé de la polémique minable d'un des créateurs du label indépendant de l'association, qui s'appelle Jean-Christophe Menu, qui a sorti une revue qui s'appelle L'Éprouvette, et je dirais que c'était une tempête dans un verre d'eau, puisqu'il a tenté de mouiller, il a dit « oui, tous les journalistes sont des merdes, etc. » Et Lewis Trondheim, qui est le président cette année, a relancé ça. Alors, faut savoir que depuis deux
l'année
semaines...
L'année prochaine, hein. Le président de l'année prochaine.
Oui, exact. Pardon, il a eu le grand prix de la ville cette année. Et donc, il faut savoir que depuis trois semaines, ça n'arrête pas. C'est-à-dire, Lewis Trondheim a tapé dans 20 minutes sur Yves-Marie Labbé du Monde, sans aucune réelle raison d'ailleurs. Hein. Il s'en est pris totalement gratuitement, tandis que Jean-Christophe Menu a reproduit dans son journal les lettres d'insultes qu'il envoie à Didier Passamonique, à Olivier, le président de la CBD. Enfin, on n'en voyait absolument pas l'intérêt. Bref, c'est complètement stérile. Tout ça pour vous dire que l'association, ils sont gentils. Bon, en tout cas, ils nous ont pas laissé du tout d'aigreur d'estomac au restaurant. On avait strictement rien à foutre de leur gueule. C'est bien dommage pour les auteurs quand même qui sont chez eux. À côté de cela, il y avait un Japonais qui était invité cette année par le festival.
Oui, alors attends, je vais retrouver le nom parce que ouais. Voilà, il s'appelle Kotobuki Shiragari, voilà, et qui a fait, on va dire, une performance, une fresque sur, un grand format pendant, je sais pas, trois séances entre midi et deux.
Ouais, et c'est là où on n'a absolument pas compris. Ce qu'ils ont fait venir un dessinateur de manga qui fait du dessin de presse, il fait aussi du strip et...
des illustrations, des affiches de films également.
Voilà, mais ce type est très connu au Japon, c'est une star. Mais en France, il n'y a pas un seul bouquin de lui qui est publié. Je crois que même en anglais, il n'y a pas un bouquin. Donc ils l'ont fait venir et ils lui ont fait faire sa performance dans le grand escalier de la mairie qui était fermé au public, c'est-à-dire que c'était ouvert qu'aux accrédités. C'est passé inaperçu. C'est bien dommage. Là, je dirais que c'est franchement dommage pour que le salon ait fait un viandage pareil, parce qu'en plus, il semblait plutôt accessible et pas du tout prise de tête. Hein. Là, on a regretté. Quoi.
Pour vous donner une idée, le mec, il a quand même reçu le prix culturel Tezuka en 2001 hein, pour sa manga. Il y a Jikita in Deep. Voilà. Ouais, c'était pour situer.
Le pays invité cette année, c'était la Chine et... il y a deux pays invités en général, il y en a un qui est un peu plus discret, c'est la Finlande qui était aussi invitée à côté, qui faisait une belle exposition là-dessus sur 12 auteurs et qui était invitée évidemment à la demande de l'ambassade de Finlande en France. Ils ont même édité un très beau bouquin, un petit guide quoi, sur la bande dessinée finlandaise et une bande dessinée qui a quand même un peu de mal, hein. C'est pas avec des éditeurs aussi gros qu'en France. Mais en tout cas, qui sont à découvrir. J'espère qu'on en reparlera prochainement et on va pas s'éterniser plus parce que du sport à les JO et que quand même, je pense que là aussi, la Finlande, risque d'avoir des chances de médaille. On reparlera aussi la semaine prochaine, justement, de la revue finlandaise internationale C'est bon anthologie, un magazine international de bande dessinée en anglais. En noir et blanc, absolument superbe. Mais bon, tout ça, ce sera la semaine prochaine, sinon on va pas s'en sortir. Zou. Vous écoutez Radio FMR 12h22, c'est Supplément Week-end. We'll be right back. Radio Éphémère, donc il n'y aura pas de pub aujourd'hui, donc on passe de suite au jingle.
Éphémère.
Voilà, ça nous permet.
Ça te fait toujours marrer ce jingle, c'est marrant. Hein.
Ouais, c'est fait maison et c'est justement un des morceaux de Red Eye qui a sur la compile Central Massive. Ah, je le passerai plus tard. La compile qui est d'ailleurs distribuée en magasin par La Baleine. Comme ça, vous allez tanner le cuir à votre disquaire pour qu'il le réserve. Oui, qu'est-ce qu'il y a ?
Non, on a du sport vient de.
Je lui faisais des signes, j'essayais de lui faire des signes pour lui dire les micros sont ouverts.
Bah oui, je les laisse ouverts là. On va entamer les chroniques avec. De la chatte, de la belle chatte. Et je dirais James, Jeff Loeb et Tim Sale, Catwoman à Rome. C'est édité par Panini Comics. Et c'est l'histoire de Selina Kyle qui cherche toujours le secret de sa naissance. Elle a appris qu'un début de réponse se trouverait à Rome. Mais Selina Kyle, c'est ni plus ni moins que l'état civil de Catwoman. Donc la plus féline des voleuses de Gotham City s'envole pour l'Italie en compagnie du Sphinx, l'homme qui ne répond qu'à des questions et des fois qui en pose d'ailleurs des velues et qui connaît tellement de choses qu'il a peut-être son idée sur l'identité de Batman. Bon, ça commence bien pour Catwoman, ses bagages sont perdus, joue à des compagnies aériennes américaines. Celui qui lui a barboté ses affaires aura une panoplie sadomaso à offrir pour la Saint-Valentin, hein, à mon avis. Ensuite, c'est une invitation pour voir Don Verini, le capo de la mafia romaine, qu'elle va très vite se mettre à dos. Ça, en général, c'est pas bon. Mais le pire, c'est qu'il semblerait que des gadgets de super-vilains gothamesques circulent à Rome. Mais je veux dire, sans les super-vilains. Là, ça pue sérieusement. Et Catwoman va se demander si elle aurait pas mieux fait de rester dans sa ville ou partir voir les Jeux Olympiques. Le problème, c'est qu'elle n'a même pas fait l'effort d'apprendre l'italien. Bon, heureusement qu'elle a un guide personnel qui lui conviendra tout à fait. Ouh. Un super bouquin, une histoire complète de la collection DC Heroes, doté d'un graphisme faussement simple, puisque on se dit avec la couverture... ouais, c'est un dessin qui est simple, etc. Non, il y a beaucoup de nuances dedans. Mais surtout, un humour omniprésent digne de la télé 60s. Bon, personnellement, question d'actualité, j'aurais préféré que ça se passe à Turin. Mais bon, comme elle préfère faire les entrechats dans la ville éternelle, eh ben, on se fait plaisir. Cherchez pas l'exactitude, hein, par contre, c'est pas un guide...
Je peux te dire que ça me fait un peu bizarre, puisque je me suis revu le DVD de Batman Returns cette semaine,
ouais.
Avec justement Selina Kyle, interprétée par Michelle Pfeiffer. Et voilà, et comme j'ai pas mal passé de temps devant les bonus, c'est vrai que à revoir Catwoman en BD, ça fait bizarre. Mais bon, vas-y, je t'en prie, continue.
Changeons totalement de registre. Buichi Terasawa, Cobra, The Space Pirate. Il s'agit du premier box sorti par Konfini. C'est les éditions Taifu, c'est-à-dire les volumes 1 à 5.
Ouais,
vas-y.
Non, avant d'évoquer ton bouquin, là, revenons un petit peu sur le Catwoman, édité par Panini, parce que je sais pas si tu as remarqué.
Oui, je l'ai dit.
Les 30 ans de Panini, tu en as parlé?
Non.
On va refaire un petit peu l'histoire. Alors, hein, ça a démarré il y a 30 ans, hein, en Italie, les autocollants, figurines Panini, hein, parce que Panini au départ c'est ça, les bouquins qu'on achetait. Enfin, pas moi, j'étais trop vieux déjà à l'époque, mais enfin les plus jeunes, ça a commencé en 76 en Italie, du côté de Modène, et c'est deux Rital, deux frangins qui ont eu l'idée comme ça de fabriquer
de faire
des vignettes,
de
faire une collection par rapport à leurs gamins, tous les gamins qu'ils avaient dans la famille, et puis bon, l'identification avec les joueurs de foot, avec les équipes, tout le bordel, enfin bon, le coup classique. Mais le buzz, c'est que c'est quand même devenu vachement important, hein. C'est une entreprise hyper prospère. La preuve, c'est qu'ils rachètent les licences style Marvel et tout ça maintenant.
Marvel, ils les avaient, ils ont soufflé d'ici aussi à Semic Edition.
Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais enfin il y a peut-être des gens qui ont remarqué, ceux qui achètent un petit peu de presse quand même, parce qu'il y a 15 jours, 3 semaines, eh bien en achetant je sais plus quoi, un quotidien, La Dépêche ou je sais pas quoi, enfin Panini a fait distribuer 3,5 millions d'exemplaires de l'album 2006 hein, des équipes françaises Panini, hein, le fameux album Panini avec quelques vignettes en prime comme ça quoi, pour commencer la collection. Hein.
D'accord.
Alors, si tu veux, je te le ramène la semaine prochaine.
Non, ça m'a passé. Ah, merci du sport.
Ah, mais celui-là est collector. Hein, c'est un 2006 avec toutes les équipes du championnat de France plus l'équipe de France. Attention. Voilà, juste
j'aimerais parler de Panini. J'aimerais quand même que tu commences à peu près à l'heure hein, l'émission pour le
sport. Et sinon, t'as pensé quoi de Monster?
Oh, s'il vous plaît, après quoi, mince. Thomas, t'es incorrigible. On commence donc, je recommence mon introduction puisqu'il s'agit de Cobra, le pirate de l'espace, The Space Pirate, un premier box qui regroupe les 5 premiers volumes manga édité par Konivi Taifu, créé par le célèbre Buichi Terasawa. Il est un brin provocateur, toujours décontracté, fumant un indévissable cigare. Il est le pirate de l'espace le plus recherché, à la fois par la police galactique, mais aussi par le syndicat du crime, la guilde des pirates. Il fit les coups les plus osés et collectionne les filles les plus belles de ce côté-ci de l'univers. Et comme le futur est très bien climatisé, elles sont la plupart du temps dans le plus simple appareil. Oui, mais voilà, Johnson n'est qu'un modeste salarié qui rêve d'une vie de débauche et d'aventure, alors que son compte en banque frise le néant. Absolu. Bref, ça, eh ben, il se dit, je vais me payer un rêve par la société Trip Movie, et donc c'est le rêve qu'il vient de faire. Sauf que son réveil est digne de Total Recall. Il n'a pas fait un rêve, mais c'est rappeler son passé qu'il a volontairement effacé. Il est réellement le pirate Cobra qui s'était caché pendant 3 ans. Et donc il retrouve sa fidèle androïde Armanoïde, son vaisseau le plus rapide de la galaxie et son fameux rayon Delta implanté dans son bras droit. Parti pour l'aventure, le danger et les très belles filles. Pour ceux qui connaissent la série télé, c'est un bonheur absolu. Celle-ci adaptait parfaitement la manga. C'est, on retrouve toutes les aventures de la série télé, sauf qu'il y a des adaptations, il y a énormément de variations. Et c'est ça justement le bonheur, c'est que l'un comme l'autre marche très bien. C'est une redécouverte assez agréable. Et la traduction des livres que je chronique ici est très bien faite. Unique bémol, les pages couleurs passées en noir et blanc sont devenues un peu floues. Ah, Cobra. C'est comme le bon vin, il vieillit très très bien et se déguste avec bonheur. Vous vous souvenez de la série télé? Et est-ce que vous avez vu le film qui a été édité par Manga Vidéo en VHS puis en DVD? Celui qui fut mis en son par Yellow, l'un des plus grands groupes de rock progressif japonais. Un album en accent gainsbourgien, devenu mythique car il n'a jamais été réédité depuis l'édition vinyle.
Ouais, non, Yellow c'est des Suisses, hein, je suis désolé.
C'est des Suisses, mais... pardon.
Ouais, c'est des Suisses. Hein. Confond avec le Yellow Magic Orchestra.
Non, alors c'est vraiment Yellow et...
Non, c'est deux Suisses. Hein.
Bon, je me suis trompé. Non, mais... Bon, d'accord, ok, pas les baffes, merci. Bon, on reste étonné de l'intemporalité de la série télé. Et la preuve que Buichi Terasawa reste un mangaka exceptionnel. Mais savez-vous que pour son personnage fétiche, le créateur de Cobra s'est inspiré d'un comédien célèbre que je vais laisser à mes deux candidats le soin de deviner pour cette finale de... Question pour un champion.
Indice chez vous.
De suite, sur votre écran.
Ah oui, alors il faut qu'on devine qui c'est qui a inspiré physiquement Cobra, c'est ça?
Top! Je suis un acteur de films de genre, principalement d'action policier avec un registre comique marqué. Je suis connu pour ma brouille passée avec un de mes compatriotes qui a une carrière comparable, mais plus noire. Au plus fort de ma carrière, ma belle gueule et mon langage fleuri m'aident à faire tomber les jolies femmes qui passent à ma portée aussi bien dans les films que pour les journaux populaires. Dans mes apparitions, tout le monde s'attend à ce que je dise ma phrase fétiche.
Belmondo?
Gagné!
Ouais, je t'ai laissé gagner parce que t'es plus jeune.
Bah, tu gagnes à la rousse de la BD, mon cher ami. Donc, tout le monde s'attend à ce que je dise ma phrase fétiche. Tac, tac, badaboum. Je fus le sponsor officiel de mon fils pilote de Formule 1 après une carrière cinématographique très bien remplie. Je jouis d'une retraite heureuse en tant que comédien de théâtre de boulevard et j'affirme encore ma virilité en portant dans mes deux bras mes deux chihuahuas.
Donc, voilà. Roland Garros.
Exactement.
Mais alors, attends, tu veux dire que c'est Belmondo qui a inspiré Terasawa pour Cobra?
Oui, mais pas physiquement. Ah, oui. Pas physiquement.
Alors sur quoi alors?
Eh ben uniquement
sur l'attitude.
L'attitude, ah ouais. La manière de bouger.
Oui, tout à fait.
Cascade.
Ouais, cascade et compagnie. Non, on retrouve vraiment le côté, je dirais, franchouillard, actionnesque des films de Belmondo. Hein,
Bébel.
Voilà. Et d'ailleurs, c'était Buchi Terasawa a plusieurs fois dit qu'il souhaiterait que justement Belmondo mette une perruque pour adapter son personnage à l'écran. Mais c'était dans les années 70. Hein,
ça ferait Cobra Dark Knight aujourd'hui.
Ok, on passe à littéralement autre chose, sinon on va pas s'en sortir. Ouais ? Non ?
Non, non, je disais que c'est vrai que c'est autre chose maintenant.
Yes, John, on saxophone. Oh, my godfathers. And also Gary on bass, oh yes.
Le fond sonore en question que vous entendez, c'est le James Taylor Quartet.
And Neil on drums, oh yes.
À la suite Penthouse. Vous savez, la fameuse suite à Beverly Hills, où il y a les filles en petit lapin. Change donc complètement de registre. On revient sur la bande dessinée européenne, mais cette fois-ci pas franco-belge, puisque en fait on va parler d'un auteur anglais. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. Enfin bon, on va parler d'un auteur anglais qui a sorti, je dirais, une œuvre qui est enfin traduite en France, une œuvre béton costaud et qui se. Enfin, il faut prendre le temps pour la découvrir. Brian Talbot, Les aventures de Luther Arkwright, c'est édité en France par Chimera Éditions. Et Luther Arkwright est un homme à part. Il n'existe pas un seul autre identique à lui dans tous les plans parallèles de la Terre. C'est pour ça qu'il est l'agent de référence d'une sorte de police des réalités parallèles qui tente de maintenir l'ordre face à une force obscure. On pourrait dire que c'est la loi et le chaos. Et Luther est le maître d'œuvre et le pion principal d'une stratégie très particulière, attirer ses agents noirs du chaos en créant une espèce de petit conflit sans importance dans une des Angleterres qu'il contrôle. Le voici donc en train d'intriguer pour que l'Angleterre puritaine tombe face aux Prussiens et aux Russes. Tout cela pour récupérer un artefact qui pourrait bien faire tomber tous ces mondes parallèles, le multivers tout entier. Alors première remarque, l'édition française, et c'est François Penaud qui nous l'a dit, bénéficie d'une restauration des films. La qualité est exceptionnelle, ce qui paraît en Angleterre, elle n'a pas été aussi bonne. Malheureusement, la densité du texte a obligé à prendre une taille de police plutôt dense.
Il suffit de se concentrer hein, mais, et éviter de faire comme moi, de lire dans le métro. Quand ça bouge, c'est pas top.
Ou comme moi avec une petite liseuse de chevet, parce que sinon, invariablement, vous avez une ombre qui est faite parce que le bouquin est assez épais. Hein. Il fait.
Ouais. Faut bien le mettre à plat.
Voilà, ouais, il fait quand même 216 pages. Hein. Enfin, bon. Que dire ? Faut s'armer de puissance pour le lire, surtout qu'on est largué pendant un bon quart de du bouquin. Hein, c'est-à-dire pendant 50 pages, on est un peu ballotté à gauche à droite, on subit, on ne comprend pas vraiment.
Bah, le mec, l'auteur, il donne pas les codes.
Pas de suite.
Les codes apparaissent, effectivement, comme tu viens de le dire, au bout du quart de la BD. C'est-à-dire que le premier quart, c'est un test pour savoir si t'es vraiment motivé pour le lire.
Que dire ? Eh ben, que l'auteur Brian Talbot a dessiné cette série pendant 10 ans, de 1979 à 1989, mais avec une étonnante constance et maîtrise de bout en bout de son scénario. Et du coup, ben, ça donne vraiment envie de s'accrocher pour comprendre les arcades de ce multivers qui est quand même digne de Michael Moorcock, qui d'ailleurs, ils ont mis une postface de lui hein, dans l'édition française. Et tout ça pour vous dire qu'au Festival d'Angoulême, un petit samedi soir, nous étions dans le club VIP, donc le fameux Fight Club, la règle numéro 1, qu'on n'en parle pas, bon on s'en fout. Donc on était en train de parler avec nos comparses d'ActuABD, Didier Passamonic, Nicolas Anspach et François Penaud, que je salue et qui est peut-être à l'écoute puisqu'il est sur Toulouse. Et pour vous donner une idée, en 3 heures, eh ben, moi j'ai vidé 4 demi et 5 cocktails. Et Doma, lui, il s'est refait une culture BD. Hein. Je crois que tu te souviens encore de la petite conférence comme ça sur le coin de la table. C'était assez fun.
Oui, mais ça ne nous regarde pas, les auditeurs.
On en reparlera par la suite, je pense. Et par le hasard de la promiscuité avec le gratin de la BD, ben, François Penaud reconnaît Brian Talbot. Et donc l'auteur anglais nous montre l'œuvre sur laquelle il travaille depuis 4 ans, Alice in Sunderland. C'est un travail de ouf. le classique de Lewis Carroll, revisité dans plein de genres graphiques différents, sous tous les angles imaginables du 9e art, voire même en vitro ou en journaux populaires du 18e, 19e, à la Tintin. Il y a même Scott McCloud, l'auteur de l'art invisible, qui apparaît en une espèce de dieu qui dit non, l'art séquentiel doit être comme ça. Oui. C'est complètement
starbé. Oui.
C'est une claque énorme. Petit problème, son éditeur anglais lui a fait faux bond. Et il trouve le courage de continuer, mais sans être sûr de le publier. Bon, alors François me dit oh, va chercher Patrick Gommet, qui est à 3 mètres de nous, l'auteur du Larousse de la bande dessinée. Et on lui montre. Ce dernier, sous le charme, va chercher un éditeur français dont on taira le nom par superstition. Alors la question, c'est combien de temps il faut pour trouver un éditeur en Angleterre de bande dessinée? Eh ben, on peut attendre qu'il gèle en enfer. En France, juste le ton de Delon, drink. Brian Talbot, Les aventures de Luther Arkwright, c'est aux éditions Chimera.
Moi, j'aimerais juste ajouter un truc, c'est que la BD, c'est pas déjà juste un scénar vachement compliqué et super. Bon, déjà, je sais pas si t'as parlé du graphisme, c'est super riche. Déjà, t'as des styles en noir et blanc qui est un peu proche des gravures, avec les déhachures, etc. T'as aussi des passages où on est quasiment presque dans le Frank Miller avec des taches noires, des zones noires et blanches et aucune nuance. Et t'as aussi le mode de narration qui est extrêmement particulier. Par exemple, vous allez avoir une succession de doubles pages en 5-6, puis vous allez avoir deux actions simultanées, une décrite tout à fait en bas dans des rectangles, et les actions sont simultanées,
oui,
mais n'ont rien à voir ensemble.
Le narratif est très important là-dedans.
Voilà.
C'est assez
agréable. Donc le truc, c'est que vous prenez un marque-page, au début du commencement de cette narration en diptyque en fait, et vous tapez toutes les doubles pages en regardant que la séquence qui est en haut, et ensuite vous revenez en arrière à l'endroit du marque-page et puis vous refaites toute l'action qui se passait en même temps mais en regardant juste les rectangles en bas. Enfin, c'est des trucs comme ça, vous êtes obligé de faire des va-et-vient incessants au début, revenir au début, tiens oui ça rappelle une action qui se passe après, parce qu'il faut dire qu'il voyage aussi à travers les mondes parallèles, et il n'y a pas de rupture, c'est-à-dire qu'il faut deviner, le lecteur doit deviner quand est-ce qu'il change, etc. À un moment donné, on est dans une ambiance qui dure à peu près 2, 3, 4 doubles pages, et puis tout d'un coup, on tourne la page, et pof, on se retrouve dans un style graphique totalement différent, c'est assez saisissant, et encore, je suis qu'à la moitié.
C'est dire, quand même, il s'accroche. Thomas, tu vas parler du film, mais juste après, un petit groupe auto-édité français, il s'agit de Hitchcock Go Home. Coward Song, c'est sur l'album Yes You're Dead, édité par Drunk Dog. C'est Supplément Weekend sur Radio FMR.
Thank you.
L'édition discographique est en crise. Avec donc Hitchcock Go Home, Score Out Song. Donc l'album c'est Yes You're Dead, c'est chez Drunk Dog. Après la drum and bass de Central Massive. Quand même, hein. Chouette objet.
Oui, oui, bah, le coffret CD, là, il, ça va, ils se foutent pas de la gueule du client, là, avec des papiers édités dans du papier, papier cartonné de qualité, on va dire. Et puis, il y a aussi des espèces de des découpages dans des magazines où des phrases sont retenues tout petit, faut pas éternuer dedans.
Ça, c'est clair, ouais, j'ai eu un petit souci, d'ailleurs.
Non, franchement, c'est un bel objet, ouais.
Thomas, oui. On va parler maintenant cinéma. Et tu m'excuses, mais je réserve ton jingle pour du sport là qui vient de se tailler, donc il le sait pas encore. Donc...
D'accord.
Ok. On y va. Zou, donc il s'agit d'un film au nom imprononçable et pourtant bien français. C'est-à-dire.
C'est bon, on y va là ?
Ouais !
Allez, il s'agit du film 13 Tsameti. C'est un film en noir et blanc réalisé par Djella Babluani, qui est d'origine géorgienne et qui est sorti mercredi dernier, il y a 3 jours. Et c'est l'histoire de Sébastien, qui est un jeune ouvrier réparant le toit d'un vieux toxicomane. Et il se trouve que ce vieux, en fait, il attend une lettre très importante, car il y a au bout du rouleau, il a plus de sous pour payer ses doses et tout. Et il attend une lettre qui pourrait le tirer de cette impasse. Sauf que cette lettre, elle est mystérieuse, elle est attendue par beaucoup de gens à côté. On sait pas trop si ce sont des espions, des gangsters, des flics... Et le vieux finit par mourir d'overdose, et suite à un concours de circonstances, c'est Sébastien qui entre en possession de cette lettre. Et comme tous les travaux qu'il avait fait pour réparer le toit ne seront pas payés forcément, il prend son courage à deux mains et puis il va tenter le tout pour le tout. Il ouvre la lettre et il voit à l'intérieur un billet de train et l'adresse d'un hôtel à Paris. Donc il s'est dit, tiens, s'il attend que cette lettre le sorte de la merde, le vieux, ben on va tenter notre chance. Hein. Et on suit ensuite le péril de Sébastien au cœur d'activités clandestines, dans un huis clos assez terrifiant, où on va voir des gangsters qui parient beaucoup d'argent, mais je vous lirai pas sur quoi, car là, ce serait un crime. Et c'est ça, toute la difficulté de faire cette chronique, en fait, c'est que à partir de... pas la moitié du film, un peu avant, le film part sur une autre direction, et moins on en dit, et plus grande sera la surprise en allant voir ce film. Alors, je l'ai dit, il y a deux parties. La première partie, ça se déroule à côté de la plage. C'est un film en noir et blanc, assez naturaliste. Les gants sont de sortie, cheveux ébouriffés. On est vraiment dans le film européen, voilà, le film d'auteur, quoi. Avec les mecs qui se gèlent, qui parlent un peu géorgien, parce que le mec est d'origine là-bas, donc il est encore chez sa famille. Et à partir du moment où, justement, il entame son périple, on entre dans autre chose, on entre dans le film de genre. Et là, on croise des gueules. Alors, c'est là que la mention -16, on comprend pourquoi elle y est. Et on va y croiser un sosie de Jean Marais, un festival de gueules. Franchement, un gros monstre échappé du Fight Club, une brute interprétée par Aurélien Recoin. Alors, je pense que du sport doit avoir une idée.
Ouais, ça me dit vaguement qui
c'est. L'emploi du temps de Laurent Canté. Aurélien Recoin, c'était le mec chauve. Ouais. Il y a vraiment une présence physique assez impressionnante. Et voilà, c'est un film, on va dire, qui rappelle un peu les films de Lautner, avec vraiment que des gueules de partout. Alors, vous allez me dire, oui, bon, alors, voilà, les mecs, ils sont pas forcés de savoir bien jouer la comédie, il suffit qu'ils soient là pour que l'intérêt soit présent. Mais bon, quand même, non, ça va côté comédie. Et bah, encore deux mots sur le visuel, on en a parlé, c'est un film en noir et blanc. Ça rappelle aussi les premiers Polanski. Et moi, ça m'a fait penser à un autre film qui s'appelle Pi.
Grandiose.
Qui avait aussi un noir et blanc granuleux extrêmement contrasté. Et c'est bizarre parce que l'acteur principal de 13 Tsameti, qui est d'ailleurs le frère du réalisateur, il ressemble physiquement beaucoup à l'acteur principal de Pi.
Tu m'avais dit que c'était dans les mêmes genres sur la musique et alors, dans l'ambiance.
La musique de Pi, c'était beaucoup plus électro et beaucoup plus punchy.
Non.
Ouais, voilà, il y avait aussi de musique de Chemical, il me semble.
Oui.
Voilà. Et là, c'est l'électro, mais vraiment qui privilégie plus l'ambiance et avec une volonté d'en foutre plein la vue qui est moins marquée. Et voilà, c'est la musique est béton. C'est d'ailleurs East de Troublemakers qui a fait la BO. Mmh. Et voilà, donc le point peut-être négatif du film, c'est que en fait il y en a deux. C'est une interprétation assez bancale. C'est dans la première partie, une direction d'acteur, on sent vraiment que c'est de l'approximation, parce que le mec qui a fait le film, c'est quand même son premier film, c'est un tout jeune réalisateur de 27 ans. Ça sent un peu le film de fin d'études ou le petit court-métrage qu'ils ont gonflé en long. Ça, c'est l'avis de certains collègues qui étaient avec moi pour voir le film. Ça, c'est pas du tout mon avis pour le côté court-métrage, parce qu'effectivement,
C'est pas l'avis après des jurys.
Non, justement, parce que je vais y venir. C'est un film qui a été récompensé à deux festivals et pas des moindres. C'est d'abord, il a eu le prix récompensé à Venise, a reçu la Mostra de Venise 2005, Le Lion du Futur, qui correspond au prix de la meilleure première œuvre. Et il a été le premier film français primé à Sundance, puisqu'il a eu le lauréat du Grand Prix du jury dans la section film de fiction qui s'appelle World Cinema. Voilà, et bon, alors je vous conseille, c'est une claque. Moi, franchement, il m'en faut peu pour me choquer dans les films, et là, franchement, c'était la. À la limite de l'épilepsie, c'est là. Et je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais commencer à spoiler. Je vous encourage franchement à aller voir ce film. Alors, je sais que c'est un mot galvaudé en ce moment, c'est-à-dire les films cultes, voilà, tu vois, le mot culte c'est galvaudé, mais franchement, là, je pense que dans 5 ans, il va avoir l'aura qu'a eu Pi. C'est dommage qu'il soit français, parce qu'en France, bon, voilà, tout ce qui est français, il part avec un petit peu d'handicap au départ, mais c'est vrai que déjà aux États-Unis, il commence à bien faire parler de lui, et je pense que le réalisateur Babloani, c'est un mec dont on entendra certainement parler dans l'avenir, et qui fera peut-être carrière plus aux États-Unis que chez nous. Et à noter aussi qu'il y a dans la présence au casting de Joe Prestia, l'ancien boxeur, et qui interprétait le rôle du violeur dans Irréversible, hein, qui a toujours la gueule avec son nez cassé, ça met de travers.
Ok.
Voilà, il s'agit de 13 Zetsam, qui est sorti mercredi dernier, qui est un film de Jela Babloani. Voilà.
On continue nos suppléments week-end 12h50, excusez-moi, sur la poubelle des radios, avec la télévision et le cadeau qu'a fait M6 hier pour la Saint-Valentin. Il s'agit du remix par Groove Armada.
Alors, j'ai pas suivi Sex and the City. C'était quoi comme épisode hier?
C'était la fin.
Ah, encore? Mais ils l'ont passé il y a 6 mois.
Non. Il y a M6, ils ont pas arrêté de faire la pub. La finale de Sex and the City.
Épisode avec Carole Bouquet, là. Ah ouais, bah c'est celui-là. Bah ils l'ont passé il y a pas longtemps en plus. Ouais, à Paris, ouais. Avec Mr Big qui se retrouve dans les bras de Carrie à la fin de la série.
Je l'avais pas prévu en programmation, hein, ce titre.
Bah tant pis, hein.
C'était un fond. Ouais, tu veux quelque chose de plus
Non, ça ira très très bien comme
alors,
ça.
Alors on y va.
Allez, avec déjà, je sais pas si vous avez vu hier soir, enfin en fin d'après-midi, la bonne affaire quand même que TF1 a réalisé là, ils ont raflé des putains de parts de marché à fond, hein, avec une télé-réalité dont tous les participants ou presque sont black ou beurre. J'ai jamais vu à la télé française. On parle de discrimination positive. Ah bah hier avec le match, je peux dire.
Je m'en doutais
qu'il
allait la
servi.
C'était quoi?
La CAN.
Eh ouais.
La finale de la CAN.
Ah, c'est qui c'était
qui à 17h.
Eh ben,
c'est le pays organisé. C'était le pays qui organisait.
Ouais. Qu'est-ce que tu veux?
Combien? Bah, j'ai pas suivi du tout.
C'était aussi
non, mais c'est pas grave. Ah. T'écoutes du sport juste après. J'en parlerai un
ça,
petit peu.
Ça, c'est l'autopromo flagrante. Allez.
Sur Radio FMR 89.1, mon gars. Parlons un petit peu des JO. Bon, je vais aussi en parler des JO de Turin un petit peu plus tard. Hein,
attends. Les JO, qui dit JO dit entrée sous l'ornelle. Allez.
Ouais. Mais là, bah, comme on parle de télé, bah, on va un petit peu évoquer le rôle des consultants. Alors, bon, on sait qu'il y a des journalistes qui sont devenus cultes. Hein, des journalistes du service public en général. Hein. On
oui.
se souvient du fameux en direct de Nagano. Hein.
Et cette année, il présente.
Et également, surtout, lui, il est là depuis plus longtemps. Hein, parce que, bon, Pierre Fula en direct de Nagano, bah, ça a été l'occasion des jeux de Nagano. Mais faut dire que l'autre personnage du service public culte, c'est quand même Nelson Montfort. Hein, Nelson Montfort.
Non, mais regardez-moi ce cul non, mais...
Qui ne fait pas. Qui n'est pas uniquement cantonné hein, aux Jeux Olympiques d'hiver, au patinage artistique et tout ça, hein, qui fait également oui, dans fait... l'athlétisme. Bon, maintenant il est multicarte, pas de problème, hein, polyglotte.
Tennis aussi.
Il a des parents qui sont pas français, il n'est pas français au départ, hein, faut dire.
Son
papa est américain, sa mère est néerlandaise, donc, rien à voir. Et pourtant, bah, ils se démerdent quand même pas mal. Non, les consultants, bah, c'est plutôt les sportifs, hein, ou les ex-sportifs qui trouvent quelques petits débouchés.
Il y a un vainqueur du Paris-Dakar, non, qui commente le
d'après
ski
d'après-carrière. Eh ben non. Si, il y a quand même. Enfin bon, là, il choisit la concurrence, j'avais mal.
Hier, il a présenté une partie de... Enfin, il a commenté une partie de la cérémonie.
Ouais, non, mais...
On l'a vu passer, il passait dans les...
Il s'agit de Luc Elfort.
Il est sur le service public. Il y a deux... le rendez-vous olympique, de toute façon, ça va être sur deux chaînes. Soit le service public, c'est-à-dire France 2, France 3, hein, qui joue la complémentarité à fond les manettes. Soit sur le câble satellite, Eurosport. C'est-à-dire qu'on aura plus de live, plus de direct sur Eurosport. Et on aura plus de rendez-vous choisis, on va dire, et peut-être des faux directs aussi, parce que ça, ils savent faire quand même depuis le temps, sur France 2, France 3. Bon, enfin, quoique, hein, généralement, ils sont quand même assez fidèles. C'est quand même pas des enfoirés comme TF1 à ce niveau-là.
Ouais, et d'ailleurs, hein, aujourd'hui...
Décalé 5 minutes, le truc et tout, t'as l'impression que t'es en direct, t'es pas en direct, quoi, tu vois.
Non, mais surtout France 2, un programme...
France 2,
un très bon programme olympique tout à l'heure, puisqu'il y aura le rugby et le tennis.
Ouais, non, mais cet après-midi, c'est spécial. Hein,
dans
cet après-midi, ils te font l'après-midi sport. Il me grille. Il me grille. Ma dernière rubrique de ça, c'est du sport, tu vois. La télé sportive, il me la grille là, tu vois. Hop, direct, j'ai tout un pan qui vient de sauter.
Bon, c'est pas la peine d'écouter du sport finalement.
Exactement. Voilà, c'est vrai, t'as le rugby, t'as le tennis également, où bon, il devrait les niquer puisqu'il mène déjà 2-0. Hein. Bon, bah, quand même, faut y aller. Et t'as bien entendu hein, également. Les Jeux Olympiques de Turin. Du côté d'Eurosport, les consultants, bah ça peut être pas mal en fait, hein, parce que bon bah il y a également du Luc Alphand, c'est pas Luc Alphand mais c'est l'autre, celui qu'on connaît moins, mais enfin bon qui a eu aussi une super carrière, c'est Franck Picard hein, qui a gagné quand même l'or dans le Super G en 88.
C'est lui qui joue dans Star Trek.
Calgary.
Non, pas du tout. Non, pas le Capitaine Picard. Il y a également Gwendal Pesera, bah on le connaît hein, quand même, hein, depuis qu'il est plus avec Anissina, bah il a le temps de venir à la télé, nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Il a été médaillé d'or, lui, en danse sur glace, c'était en 2002,
Salt Lake City.
Et il y a également Florence Masnada pour
le
ski alpin, ouais. Ce qui est une ancienne skieuse qui a quand même été... Mais il y a des médailles de bronze en descente et en combiné, il y en a encore également d'autres. Sur France 2, France 3 également, ça dépote, hein. Y a Luc Alphand, donc on en parlait avant. Il y a Edgar Gros-Piron, là ça peut être rigolo. Et là surtout, celui qu'on avait déjà vu, il avait déjà commenté, je me rappelle pas quelle une exhibition de patinage artistique il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était vraiment pas mal parce que bon bah il est naturel. Bon, des fois c'est un petit peu rentre dedans et des fois c'est bon carrément. À la limite, on va dire, c'est Philippe Candeloro. Donc également un consultant. Et là, ça peut être très rigolo parce que lui, justement, il est toujours de premier degré, il y va à fond les manettes, il sait pas se retenir et tout. Donc ça peut être vachement intéressant. À mon avis, ça peut être l'atout, hein, de France 2, France 3. Exception en fait des valeurs sûres comme Pierre Fula, comme Nelson Montfort. Là, je crois que Candeloro, ça peut être.
Tu sais ce qui fait Pierre
Ça peut être le nouveau Virenc, tu vois, comme Virenc sur le Tour de France, ça peut être pas mal du tout.
Tu sais que Pierre Fula fait quand même un hommage au Guignol cette année, en direct de Torino.
C'est normal, hein, c'est normal.
Pour une météo qui est faite à Paris quand même. Hein.
Ouais, non, mais quand même. Donc, tout ça, donc, en ce qui concerne les Jeux Olympiques de Turin, voilà, au niveau des différents consultants. À présent, ben, pas mal de séries en fait. Hein. Il y a quelques petites rediffs, quoi. Avec, par exemple, on est en plein football, on est en plein sport. Eh ben, pourquoi pas Femmes de footballeur, la rediffusion de cette série, bon, qui était passée un petit peu inaperçue parce que vous diffusez n'importe comment, hein, avec les pieds, enfin, bon, tout, quoi. N'importe quoi. Là, ça, c'est la seconde partie, troisième partie de soirée sur M6 le vendredi. Tu connais? Là, on essaie de caser des trucs.
Après NCIS.
Voilà, non, ouais, c'est ça à peu près. Quoi,
en général, ça commence à minuit.
Voilà, 23h25. Donc RIH. Pour cette première saison de Femmes de footballeur et par la suite, eh ben, on aura la seconde qui, elle, est inédite, hein, sur la télé française. Également rediff, et j'aime bien parce que sur le programme, il marque inédit. Alors c'est une connerie, c'est inédit, diffusion inédite. Sur la chaîne Sci-Fi France de Brimstone le Danais, c'est une série dont je vous parle de temps en temps comme ça, je l'évoque, hein, parce que c'est vraiment une série intéressante qui avait connu une carrière trop courte, elle a connu une saison, puis après ils ont décidé d'arrêter parce que bon, c'était un petit peu trop sombre, il n'y avait pas vraiment de, pas toujours de happy end, et puis bon, ouais, non, bon, mais ça intéresse pas forcément la ménagère de moins de 50 ans, donc c'est forcé, hein. C'est l'histoire d'un détective, Ezekiel Stone, interprété par Peter Horton. Qui crève après avoir vengé, c'est-à-dire après avoir tué le mec qui avait violé sa femme. Il meurt et bon, il se réveille en faisant un pacte avec le diable, comme quoi, en se réveillant, il se retrouve le corps complètement recouvert de tatouages. Et ces tatouages correspondent à 113 âmes damnées, 113 tatouages, 113 âmes damnées, et qui va devoir destroyer, qui va devoir ramener au diable pour que le diable les emmène en enfer parce que c'est des âmes damnées qui font le mal sur terre. C'est assez intéressant quand même, c'est vachement sombre, c'est superbement interprété par Peter Horton, donc dans le rôle d'Ezekiel Stone, et de John Glover dans le rôle du diable. John Glover qui a fait le papa Luthor dans Smallville, hein, je sais pas si tu te rappelles.
Ah, c'est
le papa Luthor.
Ah ouais, très bien.
Et ben John Glover est absolument excellent.
Il suffit qu'il se fasse pousser un bouc et puis
il y a également Laurie Petty comme caractère féminin récurrent, hein, un petit peu la copine de Peter Horton, hein, Peter Horton qui est un morbihan, donc, hein, et c'est là que l'idée est vraiment très très bonne, surtout John Glover. Donc c'est donc sur Sci-Fi, sur la chaîne Sci-Fi, à partir de lundi 20h50, deux épisodes. Une petite nouvelle dans le monde de Monsieur Dick Wolf, créateur de Law and Order et de tous ses dérivés. Eh bien, Joe Fontana vient dans la 15e saison remplacer Lenny Briscoe. Lenny Briscoe, hein, qui est mis à la retraite dans la série parce que Jerry Orbach dans la vraie vie est décédé, hein, je vous avais suffisamment parlé. Et Joe Fontana, eh bien, vient prendre sa place. Et qui interprète Joe Fontana? Alors là, vous les auditeurs et auditrices, vous voyez pas là, mais je peux vous dire que j'ai la banane parce que c'est Denis Farina. Alors là, bien joué les gars. Là, les recruteurs, ils ont fait du bon boulot quand même. On attend ça. Denis Farina, tu connais pas Denis Farina, qui a joué le rôle du méchant dans un James Bond, celui qui a la salamandre. Tu sais, quand c'est Timothy Dalton qui interprète
L'homme au pistolet d'or.
Non,
c'est Christopher Lee, ça.
Non, fin des années 80, et puis Robert Davi joue le rôle. Non, c'est Robert Davi, c'est pas Denis Farina. Putain, je me plante et tout. Enfin bref, Denis Farina. Denis Farina qu'on
Madame
a vu,
Colombo,
double plantage.
Denis Farina qu'on a vu dans d'autres séries, et bon, j'ai pas eu le temps de trop chercher, donc vous le découvrirez donc dans la 15e saison de Law and Order qui sera diffusée à partir de début mars sur 13e rue. Sinon, eh bien, un petit peu d'inédit à présent, avec quand même les chaînes qui cartonnent, on va dire, et surtout Canal, on va dire, via Canal+, via également ces chaînes dérivées, Canal Jimmy, c'est eux qui vraiment insufflent et arrivent à nous diffuser des chaînes qui sont un petit peu, qui ont un sang nouveau, qui essayent d'évoquer autre chose que les habituels. Formule du succès des séries qui innovent, des séries qui osent, qui prennent des risques. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Des fois ça passe, des fois ça casse. Enfin, ça vaut quand même toujours le coup. Là, c'est du gros calibre qui a déjà été. Je vous en ai déjà parlé de cette série. On l'a pas encore vue. Elle est complètement inédite. C'est à partir de jeudi prochain sur Canal+. Après la 4e saison inédite, le début de la diffusion de la 4e saison inédite de The Shield. Dont je parle suffisamment et j'en ai suffisamment parlé, c'est bon. The Shield qui dans cette 4e saison, eh bien, va apparaître un nouveau patron pour Michael Chiklis.
Il en a assez parlé, mais
par Glenn Close.
Ouais.
On va voir ce qu'on va voir. Et à 21h40, donc après l'épisode de The Shield, eh bien, une série complètement inédite qui s'appelle Deadwood, dont je vous ai déjà parlé. Le renouveau du western. Au départ, il voulait faire un film de science-fiction et tout. Mais bon, comme ça, ça convainquait pas du tout les gens. Ils ont retravaillé le truc et ils ont retransposé le truc dans un univers un petit peu western. Deadwood, dont l'un des scénariste principal, n'est autre que David Milch. David Milch, NYPD Blue. Donc, ok, ça veut dire quand même qualité. Deadwood, qui est supposé être une ville qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, en plein territoire indien des Black Hills, dans le Dakota du Sud. On est en 1876. On peut dire que c'est un petit peu la fin de la conquête de l'Ouest. On peut dire que c'est le début de l'installation du pays. Ça fait pile 100 ans que comment il s'appelle ce président en 1776 signe la déclaration d'indépendance des États-Unis.
George Washington.
George Washington. Donc 100 ans plus tard, eh bien, on nous propose de découvrir un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé pour une poignée d'hommes et de femmes, avec des récurrences de héros célèbres qui ont souvent été fictionnisés, qui n'étaient pas du tout comme ça dans la réalité. Mais enfin bon, l'histoire, on a fait des héros. On retrouve Wild Billy Cook, on va retrouver Doc Holliday, Calamity Jane et d'autres. Ça se déroule donc dans Deadwood et l'histoire au départ est un petit peu l'affrontement entre deux mecs. Un mec qui est déjà installé à Deadwood, c'est le tenancier du bistrot bordel, tout ce que vous voulez, interprété par le gigantesque, l'énorme, l'excellent Ian McShane, qui on a déjà vu dans Babylon 5, qui a d'ailleurs obtenu le Golden Globe 2005 pour sa performance dans Deadwood, c'est dire qui joue le rôle de Hal Swearengen. On a également Keith Carradine qui interprète Wild Billy Cook, Brad Dourif qui joue Doc Holliday. Ouah, excellent. Calamity Jane interprété par Robin Weigert. Robin, en anglais, Robin, ça peut être un mec ou une nana. Il n'y a pas de problème, là, c'est une nana. Et donc, Ian McShane, qui est le tenancier du bordel, et un nouvel arrivant, qui est le shérif, interprété par Timothy Olyphant, qui s'appelle Seth Bullock. Tout le tournage s'est fait au Ranch Melody, un ranch vachement connu. Parce que ça a été lieu de tournage de différentes séries comme Kit Carson, Buffalo Bill, Rintintin et d'autres lieux de tournage. On a tourné pratiquement tous les longs métrages d'aventure que tu vois depuis ces 10 dernières années, genre Pirates des Caraïbes, tout ça, qui ont été tournés dans les mêmes endroits. Comme c'est des séries un petit peu chères, c'est de la production HBO, donc ça veut dire que c'est des épisodes à je sais pas combien de millions de dollars. On n'en fait pas beaucoup par saison, il n'y a que 12 pour la première saison, mais on se paye quand même ce qu'il y a de mieux avec un pilote qui est réalisé par Walter Hill. Tout saboté, donc c'est jeudi prochain 21h40 pour Deadwood, cette nouvelle série western, un petit peu western, qui risque de bien dépoter. Une autre série qui dépote bien et dont je parle chaque semaine et dont je vais arrêter de parler parce que c'est la diffusion des 3 derniers épisodes demain soir sur Canal Jimmy, c'est Epitaphios. Et là on peut dire qu'ils ont mis les bouchées doubles, c'est vraiment excellent, ça tient en haleine et je pense que la diffusion des 3 épisodes, ça va pas être vraiment très très gênant, je pense, parce que beaucoup, il y a quand même beaucoup de rythme selon les épisodes et là ça va un petit peu en s'accélérant, on va dire. Le tueur en série commence à craquer un petit peu, à faire des conneries, ok, mais alors je t'explique pas Cécile Arotte.
Elle va en baver.
Obligée de bouffer du cadavre. Tu te rends pas compte. Mais tu te rends pas compte. Bon, pour l'instant, elle a déjà mordu dedans, mais elle a recraché direct. Enfin bon. On attend donc demain soir ce qui va se passer. C'est dans Epitaphios, hein, une excellente série argentine, donc je rappelle, également produite par la filiale espagnole ou sud-américaine de HBO, qui s'appelle HBO Olé, oui. Et donc qui est diffusée par Canal Jimmy demain soir. Alors c'est la soirée Epitaphios parce que vous avez les trois épisodes, donc 11, 12 et 13, les trois derniers de la première saison. Et suivi ensuite par une demi-heure de cette ignoble merde qui s'appelle Série en coulisses, qui essaie de nous décrypter un petit peu le truc de la série. Mais enfin bon, c'est Série en coulisses, on peut éviter, moi je pense, quoi. De toute façon, hein, quand on a eu une émission sur Canal Jimmy qui s'appelait Destination Série, excellemment animée par Alain Carazé et bien beaucoup d'autres, on peut dire que bon, ils sont tombés un petit peu bas. Mais enfin, c'est, si tu veux, c'est ça les compressions de personnel, hein, c'est comme ça que ça se passe. Il y a encore de l'inédit sur Canal Jimmy avec la diffusion un petit peu en catimini, comme ça on l'annonce pas trop, on s'en fout, on en a rien à foutre, hein, de toute façon. Ça peut être intéressant parce que c'est également écrit par quelqu'un qui a de la bouteille et qui a sorti une des meilleures séries de la décennie, à savoir Profits, John McNamara, qui est à l'origine de cette série qui sera diffusée sur Canal Jimmy jeudi prochain à 20h45. Bah, ça, c'est une bonne concurrence, hein, jeudi prochain, hein, avec, qui s'appelle Eyes, avec Timothy Daly, avec Laura Layton. Alors c'est un petit peu une histoire à la, une équipe de Mission Impossible, t'imagines, mais qui intervient dans des histoires de milieux financiers aux États-Unis, hein, donc parce qu'il y a des magouilles, des trucs pas possibles et tout. Bon, faut voir ce que ça donne, hein. Bon, bah, c'est quand même John McNamara qui écrit, donc ça peut être intéressant. Il y a une rediff qui est vachement intéressante parce que c'est une série dont je vous avais parlé quand elle est diffusée sur TF6, c'est-à-dire un petit peu n'importe comment, milieu, fin d'après-midi. Là, bah, avec M6, on peut se dire que ça peut durer et être récurrent, c'est-à-dire au même horaire. Le samedi après, c'est quoi qui passe? C'est Dead Zone qui passe, voilà, c'est ça.
Oh, putain.
Après Dead Zone, donc 22h30 sur M6, eh bien, on nous propose Special Unit 2 avec
le pilote. Ah oui, j'ai vu,
j'ai
vu une bande-annonce qui avait l'air assez rigolote.
Et c'est excellent parce que bon, c'est interprété. Alors, c'est une unité spéciale qui est chargée de déterrer les petits trucs, un petit peu, ça fait un petit peu penser à l'équipe de Men in Black, tu vois, quoi. C'est-à-dire, il y a des aliens, des gargouilles, des trucs, des monstres, des loups-garous. Enfin bon, c'est un petit peu plus vaste, hein, c'est pas uniquement les aliens. Et donc, il y a une équipe qui est chargée de les détecter, et puis, parce que bon, ils foutent la merde, ils emmerdent les gens et tout, tu vois. Donc, c'est interprété par Richard Gant, un black qui joue le rôle du capitaine de cette équipe, et Michael Landes. Michael Landes, qui me semble, devait remplacer Rob Estes, justement, dans la série Miami, je sais pas quoi, là.
De Palm Beach.
Les dessous de Palm Beach, et puis bon, en fait, ça s'était pas fait, mais bon, comme il ressemblait physiquement, ça aurait pu peut-être marcher. Enfin, il y avait une histoire avec lui à l'époque, ça s'est pas fait, et puis bon, il avait l'air un petit peu de le regretter parce que ça aurait peut-être lancé sa carrière un petit peu plus tôt. Parce que là, bon, Special Unit, on peut pas dire que ça a vraiment fait sa gloire. Ce qui est vachement intéressant dans cette série, en tout cas, hein, c'est que même avec le doublage français, il y a une espèce de second degré d'humour qui est sous-jacent. Toujours, hein, qui dépasse un petit peu l'action propre et l'histoire propre, hein, qui est vraiment très très bonne, hein, c'est à suivre. Donc Special Unit 2, c'est ce soir sur M6 à partir de 22h30. Et ce soir également, un petit Columbo sur TV Braze, ça te dit 1h55, hein, quand même, de ce téléfilm de 1997 de Vince McIvity. Vince McIvity qui a de toute façon fait tous les téléfilms, tous les Columbo depuis il y a 15 ans, hein, tranquille, hein, c'est lui qui tourne, oui, même le dernier, hein, c'est lui, hein, c'est un vieux de la vieille de toute façon. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est toujours la personnalité des acteurs qui interprètent donc les différents rôles. À côté de Peter Falk, là, il y a Barry Corbin, David Rash, hein, qu'on avait vu dans une série qui s'appelle Gun ou Mr. Gun, voilà, c'est ça, hein, une série un petit peu humoristique. Et bah, c'est surtout l'apparition de Shera Danez. Qui est Shera Danez? Le premier qui me répond au chocolat et à la vanille, il prend ma main dans la gueule. C'est la femme de Peter Falk, bande d'abrutis. La femme, Madame Columbo, dans la vraie vie, qui interprète donc. Eh ben, le rôle justement de la nana qui est, hein, qui a magouillé puis que c'est pas clair et tout. Et là, ben, Peter Falk, comme il la connaît par cœur, mais il va trouver direct, il va trouver.
Écoute, bonbonne, c'est ce tu soir, vas pas, comme tu me dis tout le temps, faut pas essayer de me faire avaler des vessies.
C'est ce soir sur TV Braze, donc yes. À 20h35, un petit Columbo. Et pour terminer, la honte de la semaine quand même avec cette émission de France 4. La France 4, vraiment, là je suis déçu, là carrément, mais déçu. mais très grave là, je sais pas quoi. France 4 qui nous propose donc une émission qui s'appelle Planète Rap. Alors on peut se dire excellent, ça peut être pas mal. Et tout.
Oui, j'ai vu la bande annonce ce matin. Ouais.
Et il y a de la matière quand même, tu vois, en rap en
avec
France.
Diams.
Bon, ça va quoi. Non. Diams, c'est lundi, je crois, hein, ou demain. Mais ce soir à 17h10, c'est M Pokora. Alors là, les tomber, hein, c'est n'importe quoi. C'est, ça veut plus rien dire. Non, je n'y crois plus. Laissez-moi plutôt vous faire la semaine pour terminer la semaine sur Ciné Polar.
Juste une question, puisque oui, tu me les rends. Les monsters, tu as accroché au manga ou non?
Eh bien, peut-être que dans le cas de Monsters, ce qui est vachement intéressant, c'est que ça fait pas trop manga, en fait. Le dessin ne fait pas trop manga. Tu vois, c'est ça que je trouve intéressant. Mmh. C'est assez facile à lire et c'est d'autant plus intéressant parce que bah, c'est vraiment des histoires. Ça y va. Là, pour l'instant, je vais attaquer le tome 4, enfin le chapitre 4. Donc,
Ceux qui ont loupé donc sur Canal ou ceux qui peuvent pas parce qu'ils sont pas encore entrés du bureau, ça arrive. J'en connais quelques-uns. Monster arrive en DVD chez Kazé et il y aura 5 coffrets de 4 DVD, ce qui fait 15 épisodes par coffret. Faites le compte. Ça fait un joli stock, hein. Ça fait 75 épisodes à peu près environ. Et de ce qu'on a vu, ça adapte bien le graphisme. Hein. Donc là, on va se prendre une claque. Y a pas à dire.
Allez, la semaine du la semaine sur Ciné Polar, donc à la télé, il y a une chaîne sur le satellite, je sais plus où. Enfin,
le bon, câble aussi, la DSL. Hein. C'est AB.
Ouais. Alors ce soir 20h45, allez, un petit téléfilm qui est moins 12 en plus, hein, 20h45, cool les gars, hein, qui s'appelle Le Prix de la Trahison de John Mallory Asher de 96 avec Bruce Payne.
Ouais.
Et Corbin Bernsen, ouais. Demain soir, un gros classique. Alors, il y a pas mal de gros classiques dans la semaine quand même. Il y a celui-là. Là, c'est l'archétype du film policier. Hein. C'est le film que, quand il est sorti, il y a la majeure partie des critiques qui ont dit on n'a rien compris au film. Il y en a d'autres qui ont dit putain, c'est vachement violent, c'est hyper brutal, ça passera jamais, c'est pas possible. Et ce film, c'était en 46 de Big Sleep, Le Grand Sommeil, hein, tiré du bouquin de Chandler, avec l'interprétation de Bogart dans le rôle de Philip Marlowe, Howard Hawks, qui réalise donc ce film, hein, qui avait déjà réalisé avec le couple Bogart-Bacall un an auparavant To Have or Have Not, Le Port de l'Angoisse, en 45, donc, et là en 46 sort donc ce magnifique film qui s'appelle The Big Sleep, qui est vrai un petit peu compliqué, mais si tu lis le bouquin c'est pareil, c'est aussi un petit peu compliqué dans le bouquin, donc hein, ils ont essayé d'apurer, on va dire, hein, parce que dans le bouquin en plus il y a une histoire qui n'est pas trop développée dans le film, c'est un petit peu dommage, hein, avec Eddie Mars et tout ça, mais enfin bon, tant pis quoi. Et ça a été scénarisé non pas par Chandler mais par William Faulkner je sais plus comment il s'appelle, enfin Leigh Brackett, ouais, enfin bon, la crème des scénaristes de l'époque, William Faulkner. En plus, c'était vraiment pour manger, hein, parce que bon, bah, il vivait plus de ses scénarios que des bouquins. Enfin, disons, bon, voilà, hein, c'est comme ça. C'est de Big Sleep, donc c'est demain soir sur Ciné Polar à 20h45. Lundi, uh-huh. Qu'est-ce qu'il y a lundi? Qu'est-ce qu'il y a?
Did he fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. The bean is, this is the .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and it could blow your head clean off. You have to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?
Lundi soir, le gros classique aussi, hein, l'inspecteur Harry, donc vous venez de l'entendre là, hein, dans la scène qui est mémorable, hein, c'est le début du film et tout, quoi, quand il pointe son gun et tout, alors qu'il est en train de bouger, il faut bouffer, il faut pas l'emmerder quand Harry est en train de manger, merde, vous le savez. Le classique, donc Don Siegel en 71, hein, où l'assassin, c'est Scorpio, là, tu sais, enfin le mec qui se fait casser la tête, qui revient et tout, enfin bon, c'est excellent, vraiment excellent. On parlait de violence juste avant avec Big Sleep, bon bah il y a. C'est pas la même chose, hein. Du tout. On a vachement évolué quand même. Mardi, toujours sur Ciné Polar à 20h45, une vieillerie qui peut être vachement intéressante, qui s'appelle L'Espion Fräulein Doctor. Un film de 1934 en noir et blanc, donc un Sam Wood avec Myrna Loy, George Brent et Lionel Atwood. Une histoire d'amour et d'espionnage entre une Allemande espionne et un étudiant américain, et ça se passe en plus en Turquie. Mercredi 20h45, un bon polar de ces dernières années, enfin de la dernière décennie, de James Gray. C'était son second polar. Hein. Le premier était vraiment bien, qui s'appelait Le prix à payer. Il est resté un petit peu inaperçu parce que bon, c'était un film avec que des nanas dedans, quoi. C'était Nana qui avait le rôle principal. Hein.
Little Odessa.
Et là, c'est Little Odessa dans le deuxième de James Gray, hein, qui l'a confirmé comme un bon réalisateur. Après, il s'est un petit peu égaré dans des merdes, dans des espèces de trucs semi-autorisants. Enfin bon, ça a été vachement chiant.
Il a fait The Yards après.
Ouais, The Yards. Bon, ouais, bon. Là, il y a Tim Roth, Edward Furlong, Moira Kelly et Maximilian Chell hein, dans ce Little Odessa hein, de James Gray qui passe mercredi prochain sur Ciné Polar.
Ça a shooté dans la neige.
Jeudi prochain à 20h45, eh bien, c'est Le Châtiment, un film de 39 de Lewis Seiler avec encore Humphrey Bogart. À l'époque, il ne connaissait pas hein, Lorraine Bacall, c'était en 39 et il jouait donc avec Gail Page et Billy Hallop. Et vendredi 20h45, c'est peut-être le film le plus intéressant de la semaine et ça permet de remettre les choses en perspective en ce qui concerne le cinéma américain récent. Ça s'appelle La Rançon d'Alex Segal de 56, interprété par Glenn Ford, Donna Reed et Leslie Nielsen. Et le scénario, bah, il est très simple. Hein, c'est un millionnaire dont le fils est enlevé et qui propose une rançon à ceux qui retrouveront les ravisseurs. Ça vous rappelle pas un autre
si,
film?
Si, film avec Mel Gibson de Ron Howard.
Eh ben voilà, mon gars. T'as tout trouvé. Bah, c'est l'occasion de découvrir l'original, donc, hein, de voir. Quelle a été la substance qui a permis à Mel Gibson et à Ron Howard de fabriquer des millions de dollars avec un petit film de série B de 1956.
Ne regarde pas comme ça, Thomas.
C'est
j'ai
vendredi
toujours
prochain
pas la DSL.
À 20h45. Allez, ben voilà, ben ce
bah,
sera
France
tout.
Hein, France Télécom, ils ont toujours pas remis la DSL chez moi et donc c'est dommage. C'est vrai que c'est une petite chaîne qui coûte pas cher et donc qui passe pas mal de trucs qui coûtent rien et faut on a des sacrées
surprises. C'est-à-dire que bon, il y a beaucoup de rediff, il y a pas de problème. Il y a des films qu'on a déjà vus, revus, hein, mais enfin bon, mais, de temps en temps. Il y a quelques petites particularités, il y a quand même des petits inédits hein, qui sont assez intéressants de toute façon sur cette chaîne Ciné Polar hein, qui est spécialisée. Bon, bah ok, il faut aimer le polar quand même un peu.
Voilà. Eh bien, mes chers amis, nous arrivons sur la fin de supplément week-end et ma foi, eh ben, on a dépassé un peu là.
Bon, pas autant pas que la dernière fois. Hein.
Oui, enfin là, quand même, on va pas trop insister parce que du sport aura une spéciale autour des Jeux Olympiques et de plein d'autres choses. Donc, de suite, je suis en train de reprendre mes CD et de faire le reste. Thomas, dis-moi, on n'a pas été irréprochable dans cette émission?
On a été bien corrigé chacun notre tour. Hein. Toi, tu l'as été sur Yellow. En plus,
je me pose la question si c'est Yellow ou Yellow Magic Orchestra, mais en tout cas, bon.
On a aussi fini notre débrief d'Angoulême et du sport, c'est aussi sévèrement planté sur les méchants de James Bond. Allons, Robert Daly, c'est pas Farina, enfin.
Bon,
non, mais Denis Farina, en fait, c'est le mec qui est le chef dans Crime Story.
Ah ouais, je l'ai pas vu.
Ah ouais, la série, excellente série.
Et ben voilà, donc.
D'un certain Michael Mann.
Ah oui, ça je connais.
D'accord, voilà, ça on connaît. On en reparlera une autre fois. Les fonds sonores utilisés pour une fois, je les annonce. Amon Tobin, les Compi Ninja Tune, James Taylor, The Orb, la Lochifrine et Groove Armada. Et puis voilà, et il n'y a pas que ça, bah non. Puisqu'il y avait aussi, on a passé donc le fameux CD Central Massive qui sort à partir de début avril dans les magasins spécialisés, Dick Store et tout le reste. Ceci dit, ben ce soir, il y a une soirée Stéréo Panda Fat Bass Party au Liquid Club. Et sur Radio FMR, juste après du sport, 15h Monde Progression, 16h Big Band, 17h Victor Dur, 18h Tu peux l'ouvrir, 19h Happy Hour, 20h Last Hétéro Experience et 21h30 Liquid Sky. Thomas, on se retrouve la semaine prochaine.
La semaine prochaine avec un spécial Peter Chung la semaine prochaine à l'occasion de la sortie technique de Aeon Flux.
Voilà.
Film tiré de sa série télé qui était passée sur MTV.
Qui passe sur MTV, qui est rediffusée d'ailleurs.
Voilà.
Et d'un autre côté, et ben cette fois-ci la semaine prochaine, comme promis, de la manga de bouffe japonaise, du pain et des nouilles, Panem et Pastasses.
Et je peux te dire qu'on aura de la compagnie aussi.
Super, d'accord, ok. On prévoit un resto japonais. D'ailleurs, on va appeler de ce pas. Ciao, see you, à plus. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vous laisse la place avec The Specialist.
Bon week-end.
Du sport dans la place.